Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro. Prise de son, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous clôturons cette semaine consacrée à la valeur du corps avec un rêve, ou plutôt un fantasme, celui de s'affranchir de la chair, d'abolir la matière grâce aux nouvelles technologies et de vaincre ainsi la souffrance, la maladie et la mort. Ce projet de fusion de l'homme et de la machine, c'est celui de l'idéologie transhumaniste née dans la Silicon Valley dans les années 80, une idéologie qui prend aujourd'hui de l'ampleur avec les progrès de l'intelligence artificielle. Alors comment comprendre les espoirs et la fascination soulevés par le corps augmenté et quels sont les intérêts économiques qui se cachent derrière les promesses du post-humanisme? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture, l'heure de pénétrer dans une autre réalité. Et pour comprendre ce que les nouvelles technologies et les fictions qui les accompagnent font à nos corps, nous avons invité Éric Sadin, écrivain, philosophe, auteur de L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, anatomie d'un anti-humanisme radical, paru aux éditions L'Échappée. Avec nous également en duplex de Strasbourg, David Le Breton, sociologue et anthropologue, auteur de L'adieu au corps, publié chez Métellier. Et en fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
C'est un des aspects qui est très grave dans notre société, c'est que la technique, ayant détruit tout ce que l'homme considérait ou appelait le sacré, dans la nature, etc., eh bien l'homme est spontanément amené à regarder la technique comme du sacré. Mais ça, c'est typique de notre société moderne. Alors que dans une société traditionnelle, eh bien, on pose toujours cette question-là. Si je fais ceci qui perturbe, qui dérange l'ordre du monde, qu'est-ce que ça va coûter? Tout progrès technique se paie. Tout bonheur de l'homme se paie. Il faut toujours se demander quel est le prix que l'on va payer.
Éric Sadin et David Le Breton, bonjour.
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 Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, la sacralisation de la technique et l'oubli ou le déni des conséquences que le progrès technique peut entraîner. Le philosophe Jacques Ellul en parlait déjà en 1992. Nous sommes plus que jamais confrontés à cette idéologie technicienne, Éric Sadin.
Ah oui, oui. Jacques Ellul parlait de sacralisation. On peut parler d'une, moins aujourd'hui d'une sacralisation, il me semble, que d'une dimension salvatrice, supposément salvatrice de la technique. J'étais très troublé en entendant les propos de Jacques Ellul, qui me faisait penser à ce que Rousseau avait dit presque deux siècles auparavant, hein, dans le discours sur les sciences et les arts de 1750, que tout progrès technique se paie de formes multiples, de corruption et de la société, sous diverses formes. Et le mérite de Jacques Ellul, au moment où se déployait une sorte de, ce que je pense moi être une sorte de prose métaphysique indigeste au cours des années 50 et 60, il a eu le mérite d'analyser ce qui se jouait avec les développements techniques, mais pas comme Gilbert Simondon à la même période, qui s'extasiait devant un moteur de voiture ou une jante en aluminium, y voyant du génie humain. Il avait raison, mais il le percevait de façon totalement décontextualisée des intérêts économiques, ce qu'avait très bien vu Jacques Ellul. Et je pense que ce n'est pas un hasard que Jacques Ellul aujourd'hui soit relu et qu'il fasse l'objet d'une réintroduction d'intérêt et dans les débats.
David Le Breton, un premier mot sur ces quelques mots de Jacques Ellul qu'on entendait. La technique aujourd'hui, elle est présentée comme ce moyen de dépasser notre corps, de dépasser notre humanité.
Oui, effectivement, la technique, la science sont devenues aujourd'hui des formes de technoprophétisme, sur le fond d'ailleurs d'un recul du religieux traditionnel. Et donc aujourd'hui, on voit bon nombre de scientifiques ou d'ingénieurs nous promettre des lendemains émerveillés à travers même carrément l'immortalité, l'absence de toute maladie, enfin une vie censée être absolument merveilleuse. Mais ce ne sont plus des paradis métaphysiques en quelque sorte, ce sont des paradis qui seraient inclus dans les technosciences contemporaines. Donc il y a en effet, comme le disait Eric Sadin, une dimension salvatrice aujourd'hui on pourrait dire d'ailleurs que c'est un nouveau millénarisme même, hein, une quête de salut par la technique et qui aboutit donc à cette fascination de bon nombre de nos contemporains et même des toutes jeunes générations par exemple qui seraient sans doute les premières victimes s'il y avait un développement massif de toutes ces technologies, si elles étaient pensables, si elles étaient réalisables, bien entendu, parce qu'on est quand même dans un monde d'imaginaire social pour moi.
Alors on va voir quelles sont les logiques qui sont à l'œuvre derrière ces discours parfois prophétiques, messianiques. Eric Sadin, l'objectif des nouvelles technologies, et notamment de l'intelligence artificielle, donc sur lequel vous venez d'écrire, c'est d'abord de mesurer le corps, de le maîtriser. De quelle façon ?
Je pense que pour saisir ce qui se produit actuellement avec les technologies numériques et particulièrement l'intelligence artificielle, le prisme du corps est très très éloquent. Donc l'objet de l'émission, je pense qu'on ne perçoit pas suffisamment les enjeux au prisme du corps, et donc l'émission offre une occasion, et c'est tant mieux. Oui, il y a actuellement un nouveau statut du corps qui est à l'œuvre, qui entend être mesuré, quantifié, car le monde industriel s'est engagé dans une nouvelle lutte qui est actuellement à l'œuvre et qui était une lutte qui est appelée à ne cesser de s'amplifier, qui est ce que je nomme la conquête du comportemental. Alors qu'est-ce que c'est la conquête du comportemental ? C'est cela la lutte industrielle, hein, des grands groupes de l'industrie de la donnée. Eh bien, cette lutte du comportemental, elle s'adosse sur une structure technologique fondée sur deux points pivots qui s'entrecroisent et qui rendent possibles des nouvelles modalités d'interprétation des comportements. La première, c'est les capteurs, hein, de plus en plus appelés à de plus en plus être intégrés dans les surfaces de nos réalités, et des systèmes d'intelligence artificielle qui interprètent les situations et qui sont dotés de la capacité de formuler la supposée exactitude d'état de fait et de signaler des actions à engager en conséquence. Alors je donne un exemple très simple. Je pourrais en décliner pendant de longues heures, hein, des exemples. Je donne l'exemple, par exemple, d'un miroir connecté, parce que maintenant il se trouve que les miroirs nous parlent, nous disent des choses. Hein.
Donc c'est ce miroir qui a été lancé par Google et qui permet de donner un certain nombre d'informations en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il peut interpréter, des différentes expressions du visage.
C'est cela, c'est-à-dire que aujourd'hui un miroir, enfin aujourd'hui ou bientôt, hein, si en tout cas si nous donnons notre assentiment à acquérir ce type d'objet, ce qui n'est pas encore totalement écrit, hein, eh bien ils ne sont pas censés refléter seulement la présence du corps, mais le mesurer. C'est-à-dire interpréter, analyser les traits du visage, l'évolution de nos traits, et de, car c'est cela aussi qui caractérise l'intelligence artificielle, de suggérer en retour, en fonction de critères prioritairement qui visent à répondre à des intérêts économiques, de nous suggérer, eh bien, en fonction de votre état supposé, vous devriez prendre, aller à la montagne ou prendre tel produit.
Donc, c'est la machine qui devient prescriptrice.
C'est la machine. Alors, ça, c'est une grande affaire, la dimension prescriptive de la situation technologique actuelle et précisément de l'intelligence artificielle. C'est une instance à interpréter et à nous dire la vérité. Alors, si vous voulez, je peux vous préciser en quelques mots pourquoi je dis vérité et pas exactitude. Je fais une différence entre exactitude et vérité. L'exactitude, c'est factuel, hein. Il a plu le jour de l'intronisation de Donald Trump en janvier 2017. Son attaché de communication nous dit qu'il a fait très beau pour donner une dimension enchanteresse à son intronisation. Non, il a plu, c'est un fait, c'est factuel. Bon. Mais ça n'engage rien en retour, sinon des représentations. Révéler des états de fait, c'est ce que fait l'intelligence artificielle, hein. mesurer des situations, et mesurer le corps notamment par les capteurs, ne fait pas que signaler des états de fait. Ça engage des actions en retour. Donc c'est ce que je nomme la dimension, le tournant injonctif de la technique. Ça engage des actions en retour, alors à plusieurs niveaux. Hein. Ça peut être incitatif, parce que c'est les différents niveaux que j'ai analysés dans mon nouveau livre, hein. Des niveaux incitatifs, prescriptifs, coercitifs. Alors je vais donner un autre exemple d'un niveau incitatif. Tout le monde connaît cette application Waze, développée, racheté par Google, hein, qui, en temps réel, interprète des situations et nous disent un état de la circulation et du trafic. Et qu'est-ce que ça fait? C'est incitatif, on fait ce qu'on veut avec ça, là, n'est-ce pas? Mais nous engage, en retour, à répondre aux états de fait. Donc, nous atteignons un moment de la technique qui nous révèle des états de fait et qui induit une forme à plusieurs niveaux, de pression sur la décision humaine.
Alors, on va voir quelles conséquences ces différentes applications, ces nouvelles technologies peuvent avoir sur le corps. Mais d'abord, il faut peut-être expliquer, David Le Breton, que l'intelligence artificielle part d'un postulat, celui que le cerveau humain et la machine fonctionnent de la même façon. C'est l'idée qu'il y aurait une continuité entre le corps et la technologie.
Oui, c'est l'idée que le cerveau est une sorte de logiciel, que le cerveau contient d'innombrables informations. Donc c'est l'émergence avec l'intelligence artificielle, mais avant avec la cybernétique, de ce paradigme informationnel qui est au cœur de tout ce qui se joue aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la transformation du monde en information pure, donc en information qui peut être également comparée, qui peut être dupliquée, etc. Et puis qui aboutit à ces transformations sociales profondes que nous vivons aujourd'hui, et puis également à des représentations sociales qui transforment profondément notre image de l'humain, parce que pour moi, évidemment, nous ne vivons pas en tant qu'humanité dans un univers d'information, mais dans un univers de sens. Et là, il y a évidemment un malentendu absolument fondamental. On pourrait dire que l'information, c'est la technicisation du sens. L'information, c'est donc une donnée brute, brutale également, reproductive, etc. Le sens, au contraire, ce sont toutes les significations, toutes les valeurs que nous projetons en permanence sur le monde, qui sont liées toujours à un contexte, qui sont liées à notre histoire de vie, qui sont liées à notre inventivité. Donc le sens inclut l'ambivalence, inclut l'infinie complexité du monde et notre capacité de rebond. La technique, évidemment, l'intelligence artificielle, à mes yeux, en tous les cas, n'a pas cette finesse, en quelque sorte, dans son appréhension du monde, et elle développe davantage un fantasme de toute puissance, finalement, un fantasme de vérité. C'est-à-dire que ces manières de décrypter, par exemple, les informations, les traits du visage comme des informations, pour moi, qui ai énormément écrit sur le visage, ça me paraît un peu farfelu, d'une certaine manière. Parce que derrière un sourire, vous pouvez avoir d'innombrables significations extrêmement différentes, derrière des larmes également. Alors comment peut-on prétendre formater de cette manière finalement l'infinie complexité de la société, des sociétés humaines, sans compter d'ailleurs les différences sociales, culturelles, etc. Parce que là, ces logiciels sont fondés sur des représentations typiquement occidentales et nous disent encore moins des populations amérindiennes ou aborigènes.
Et c'est le fantasme qu'exprimait déjà Eric Drexler, l'auteur de Engin de création, l'avènement des nanotechnologies, publié en 1986. Il parlait alors de façonner le monde atome par atome. Et c'est ainsi, David Le Breton, que s'opère le brouillage de la distinction entre le corps et la machine, brouillage qui prépare cette fusion future que les transhumanistes appellent de leur vœu.
Oui, parce que c'est vrai que notre appréhension du monde, elle passe aussi fondamentalement par les perceptions sensorielles et par nos émotions. Ce dont, évidemment, les techniques sont absolument incapables. Et donc, dans notre histoire du corps de ces 40-50 dernières années, il y a eu toute une série d'étapes. Dans les années 80, on était encore dans un univers relativement hospitalier au corps. C'était l'époque de la libération sexuelle, des thérapies corporelles. On disait le corps, c'est la vérité, etc. Et dans les années 90, au contraire, on est entré dans un monde où le corps devait être absolument à transformer d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs l'émergence d'un marché du corps absolument hallucinant qui va se développer à foison dans les années ultérieures. Mais c'est l'amorce du tatouage, du piercing, des régimes alimentaires, de la chirurgie esthétique, de la dermatologie esthétique, etc. Bon, je passe sur toutes ces choses-là, mais qui renvoient à l'idée que notre corps n'est qu'un accessoire. Nous pouvons transformer notre corps corps à notre guise. Et là-dessus va émerger un discours technoscientifique, celui de l'obsolescence du corps. L'idée que le corps est complètement dépassé aujourd'hui par les technologies qui sont les nôtres, et que le corps finalement est l'obstacle à tous nos rêves, à tous nos fantasmes, c'est-à-dire le corps est le lieu de la mort, le lieu de la maladie, le lieu de la fatigue, de l'épuisement, de la vieillesse, etc. Donc le fantasme qui va émerger avec les extropiens d'ailleurs, hein, ceux qui vont devenir les transhumanistes d'une certaine manière, mais les extropiens dans les années 90 étaient les premiers à penser donc que le corps était vraiment l'obstacle à abattre d'une manière ou d'une autre.
Donc une hostilité autour du corps, on vous a bien compris, David Le Breton. Mais alors, du côté des entreprises, des nouvelles technologies, il y a cette idée d'investir le corps de différentes façons, et notamment depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle a très largement investi le domaine de la santé. Écoutons un extrait d'un reportage diffusé sur Arte au mois de septembre.
La pratique de la médecine est en train de se transformer. Essentiellement parce qu'avant, les données qui résultaient d'une consultation entre un patient et son médecin n'étaient pas forcément conservées. Aujourd'hui, tout est enregistré numériquement et on peut réutiliser les données de plus en plus. Dans le cas d'un patient âgé de 50 ans, il existe sans doute des téraoctets d'informations issues de tous les examens qu'il a subis au cours de sa vie. C'est une masse d'informations qu'un médecin est incapable de lire au cours des 15 minutes qu'il passe en consultation avec son patient. C'est ça le pouvoir de l'intelligence artificielle. Pouvoir analyser toutes ces informations et les remettre dans le contexte de la maladie pour aider le médecin à travailler. Nous constatons déjà qu'utiliser l'intelligence artificielle aide les cancérologues ou les différents centres de traitement du cancer. Grâce à la puissance de Watson, ils peuvent aller du génome d'un patient au choix du meilleur traitement en 3 à 5 minutes.
Éric Sadin, quelles sont les ambitions des entreprises du numérique dans le domaine de la santé et comment est-ce que vous les interprétez, ces ambitions ?
Alors, il y a déjà des discours avant les ambitions. Avez-vous remarqué que quand nous parlons d'intelligence artificielle, car nous en parlons beaucoup depuis quelques années, notre mode de perception s'est réduit à une équation binaire qui, je vous l'avoue, commence à me fatiguer, c'est-à-dire qui est réduite à l'équation avantage-inconvénient. Alors, concernant les inconvénients, les supposés inconvénients, on parle continuellement des destructions d'emplois à hautes compétences cognitives annoncées, sur lesquelles les choses sont extrêmement complexes. Et puis, il y a quantité d'autres conséquences dont on ne parle pas, supposées négatives. Et puis, relativement aux conséquences supposément positives, n'en doutez pas. S'il y a bien un domaine dont nous allons tous profiter, c'est bien celui de l'intelligence artificielle avec la médecine. Alors moi, je suis allé voir de près, puisque j'ai publié un livre extrêmement critique sur la nature de l'intelligence artificielle, sur ses effets, sur les discours. Alors, ce qu'on vient d'entendre, ce passage est extrêmement éloquent. C'est un fait entendu aujourd'hui, à chaque fois on nous dit « Oui, mais regardez, alors vous dites cela, mais regardez ce qu'il se passe avec la médecine. » Eh bien, je suis allé voir, il faut aller voir. Alors, je vous décris en quelques mots ce qu'il se passe actuellement. Ce monsieur que nous avons entendu a parlé de Watson. Watson est un système extrêmement sophistiqué qui a plusieurs fonctionnalités. Alors, je vais dérouler en quelques mots, hein, je ne vais pas être très long, quelques mots, mais c'est très marquant. Il faut voir ce qui se joue actuellement, au-delà des discours enjoliveurs qui polluent les public. Watson, c'est d'abord un formidable outil de récolte d'informations et d'analyse de quantité de phénomènes, des foyers de pathologie, des incidences de molécules sur des personnes, des
suivis. Qui aide véritablement les médecins sur le terrain?
Voilà. Et il faut relever que c'est un outil d'aide. C'est un outil d'aide à la décision et un outil d'information qui est effectivement très utile. Depuis quelques années, une autre fonctionnalité dont on ne cesse de parler devient opératoire, c'est le diagnostic automatisé. Hein. Alors, moi déjà, en tant que personne, je suis très très gêné par le fait que la compétence sensible du médecin, son savoir, sa connaissance des patients, son suivi, l'appréhension du contexte, la prise en compte du contexte, tout cela, eh bien, en société, on peut supposer, eh bien, ça passe par pertes et profits. C'est une parenthèse, mais qui est de taille, n'est-ce pas, hein, qui devrait nous interpeller davantage, car dans notre société utilitariste, on n'arrête pas de dire, eh bien, c'est formidable, le diagnostic automatisé, eh bien, à la place du médecin.
Ça diffuse l'idée que le médecin ne serait plus utile.
Alors, et puis, on ne cesse d'arguer de la fameuse fable, c'est une fable de la complémentarité homme-machine, hein, là aussi, ça relève du discours. Non, ce qu'il se passe, parce que l'intelligence artificielle en 2018, ce ne sera pas la même qu'en 2025 et en 2030, avec les capacités d'auto-apprentissage et du machine learning, nous allons vers une sophistication sans cesse croissante de la puissance d'expertise. Donc je continue en quelques mots ce diagnostic automatisé où il se confirme que certaines pathologies, des mélanomes, des cancers, sont expertisées ou diagnostiquées à des vitesses qui dépassent nos capacités humaines. Alors moi je crois déjà que dans les hôpitaux, il faudrait qu'il y ait des organes de contre-diagnostic automatisés. Bon, ça coûte très cher. Donc la vérité infaillible de l'intelligence artificielle, il serait bien de la remettre en question, notamment pour ce qui regarde le traitement du corps. Et puis le grand problème, je terminerai sur cela, c'est que ces mêmes systèmes, je dis bien ces mêmes, j'insiste sur ces mêmes, qui sont des systèmes de diagnostic, deviennent aussi, c'est déjà le cas aux États-Unis, des systèmes de prescription automatisés. Et ces systèmes, voyez-vous la rupture qu'ils s'opèrent, l'intégrité du médecin, l'intégrité de la prescription, ce qu'il doit relever, c'est que ces systèmes ne sont pas développés par des médecins, ils sont développés par l'industrie du numérique, qui entend confisquer le champ de la médecine, se lancer dans une grande opération de confiscation du champ de la santé, et d'instaurer ce que je nomme une relation continue entre les individus et les groupes de la donnée, par des capteurs, destinés à interpréter en temps réel les états.
Donc c'est une volonté de maîtriser l'intégralité du processus médical
D'occuper le terrain de la santé, qui, comme on le sait, représente un chiffre d'affaires, un horizon économique plus que considérable.
Donc avec un risque réel de privatisation de la santé et de ringardisation du rôle des médecins.
Nous ne voyons pas les conséquences collatérales du diagnostic automatisé des développements de ces systèmes développés par l'industrie du numérique qui visent à faire sauter le paiement à l'acte, la consultation médicale, au profit d'une interprétation via les capteurs en continu des états physiologiques et par les systèmes d'intelligence artificielle de rétroagir et de formuler soit des produits de bien-être, soit des solutions thérapeutique, et Google et d'autres, car Google maintenant est dans la santé, ça devrait nous interpeller.
Qui parlait de relever le défi de l'âge et des maladies associées. Vous parliez de discours tout à l'heure.
Absolument. Et il s'agit de se situer pour ces grands groupes en tant que plateforme, c'est-à-dire entre les individus et l'industrie pharmaceutique et les industries de bien-être, en vue de soit elles-mêmes, ces plateformes Google, Apple, proposer des solutions, soit mettre aux enchères des mots-clés pour des sociétés, principalement pharmaceutiques, en vue de suggérer les produits supposés les plus appropriés. Alors, il serait temps que, relativement à la médecine, nous voyons précisément, au-delà des discours, ce qui est en train de se jouer. Et il me semble que c'est tout à fait emblématique de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des systèmes, des intérêts privés qui, de plus en plus, encadrent le cours des affaires humaines.
David Le Breton, qu'est-ce que cet intérêt croissant des entreprises du numérique pour la santé nous dit de la vision du corps qui est mise en avant par les transhumanistes? Et est-ce que ce n'est pas la rapidité et l'efficacité des nouvelles technologies qui nous renvoie l'image d'un corps qui serait lent, qui serait obsolète?
La médecine, déjà, était centrée moins sur le sujet que sur l'organisme. On peut même pas dire que la médecine s'intéresse au corps. Elle s'intéresse à la réduction du corps qu'est l'organisme, en quelque sorte. Donc, avec tous les mécanismes neurophysiologiques, biologiques et autres qui le traversent. Et là, finalement, le sujet serait davantage encore dissous, mais dans l'information. Ce qui aboutit, évidemment, à une médecine sans sujet, où en tant que patient, nous sommes traités indépendamment de notre singularité, de notre histoire de vie, de nos appartenances sociales, culturelles, etc., et donc réduit à une pure somme d'informations. Et là, je suis très sceptique, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la douleur, notamment, c'était l'objet de mon dernier livre, sur les douleurs chroniques. On voit bien que la finesse des diagnostics, la finesse des analyses de données biologiques, etc., n'aboutit pas systématiquement, d'ailleurs, à un meilleur traitement du patient. La douleur chronique en est une objection absolument radicale. Parfois, on sait très très bien donc définir la source de cette douleur, qui peut être parfois absolument effrayante, mais en même temps, il y a une impuissance de la médecine à trouver des solutions. Et là, ce ne serait même plus le médecin ou son équipe qui va réfléchir avec le patient. En effet, on s'en remet à une technologie pour prendre les décisions, avec tous les risques que Éric Sadin souligne très bien, de la privatisation également des médicaments, des prises en charge, de la chirurgie, etc. Donc ça veut dire qu'en tant que patient, nous allons être encore davantage dépossédés finalement de notre histoire, de nos soins, que nous ne l'étions déjà aujourd'hui.
Et alors justement, comment est-ce que nous réceptionnons ce genre de discours? Qu'est-ce qui est mis en place pour convaincre le grand public des bienfaits des nouvelles technologies, quelles qu'elles soient? Écoutons le point de vue du philosophe Olivier Rey.
Pour faire adhérer la population à une technologisation sans cesse plus poussée de leurs existences, à un moment où les populations mettent en doute le fait que par la technologie, elles vont devenir de plus en plus heureuses, il faut une inflation absolument gigantesque des promesses pour arracher le consentement. Et alors donc, en fait, c'est plutôt une marque de désespoir que d'en être réduit à devoir promettre l'immortalité pour pouvoir encore continuer cette entreprise technologique. Et même si l'immortalité n'arrive pas, en attendant, Google se sera organisé pour que tout le monde lui fournisse toutes ses données corporelles, parce que avec ses algorithmes, elle va vous donner des régimes, des produits à prendre, etc. Google s'est allié par exemple au plus grand laboratoire pharmaceutique et on voit se mettre en place quelque chose qui sera d'un côté la collecte de toutes les données physiologiques des personnes et d'autre part la vente, une pharmaceutisation de l'existence. Et là, il y a beaucoup d'argent à faire et il faut pas se leurrer. L'immortalité, c'est juste un produit d'appel.
L'immortalité est un produit d'appel, c'est-à-dire une opération de communication qui permet de vendre d'autres technologies moins ambitieuses, mais qui, elles, existent réellement, Éric Sadin?
Ah oui, il est heureux d'entendre plusieurs voix critiques au sein d'une même émission. Hein. Je suis ravi de cela. Olivier Rey a tout à fait raison. Le transhumanisme est à la fois une promesse mobilisatrice et une grande supercherie, il faut le dire. Alors pourquoi d'abord une promesse mobilisatrice? Car nous sommes à l'ère de la puissance. Nous sommes à l'ère de la puissance. Vous savez, on se compare souvent la puissance des grands groupes de l'industrie numérique avec les États. Comparaison n'est pas raison, dit-on, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs puissances. La puissance des États, les puissances nucléaires, les puissances militaires. Et depuis une vingtaine d'années, s'est accrue la puissance industrielle, particulièrement celle de l'industrie du numérique. Et elle se fonde sur une vision du monde, qui est que le monde est pétri de défauts, que Dieu n'a pas parachevé la création. Mais nous vivons un miracle aujourd'hui. C'est celle du développement des technologies de l'exponentiel. Et à vitesse exponentielle, elles vont racheter tous les défauts de la Terre. Et notamment la corruption, les défauts du corps. Et c'est là que je dis que c'est une supercherie. Parce que d'abord, on ne relève pas assez que ces personnes... ces dits transhumanistes, qui ne sont pas si nombreux, hein, on leur donne beaucoup d'audience, qui ne sont pas si nombreux. La plupart d'entre eux ne sont dotés d'aucune compétence en biologie et en médecine. Et ils ont une vision du corps comme une sorte de mécanique qui pourrait être manipulée avec des solutions plus ou moins simples. Et leur solution, leur promesse d'immortalité, c'est là que ça relève de la supercherie. Que nous écoutons. Moi, je regrette cela. C'est-à-dire, nous l'écoutons, cela. Hein. Nous donnons beaucoup trop d'audience, de visibilité à ces personnes. Supercherie, car il s'agirait soit de solutions thérapeutiques dont pas aucun médecin sérieux n'accorde du crédit, soit de truffer les corps de prothèses, avec tous les effets, toutes les incidences, les effets secondaires, ou alors ce délire, car c'est un délire psychiatrique qui relève du transhumanisme, de, entendons-nous, on la connaît, cette formule, maintenant on l'a beaucoup entendue, mais on n'en rit pas assez, il faudrait en rire, du rire ironique de Démocrite, de télécharger, entendez-vous, cela, nos cerveaux sur des puces de silicium et les mettre au sein de robots de fer et de...
Mais qui... Que vous
regardez-vous, entendez-vous le réductionnisme dont David Le Breton a parlé tout à l'heure, le réductionnisme qui est à l'œuvre, comme s'il était possible de réduire notre cerveau, cet organe d'une infinie complexité qui est doté d'une appréhension multisensorielle du réel, de le réduire à des données.
Mais ce que vous expliquez très bien dans votre livre, Eric Satin, qui est important, c'est que selon vous, on vend l'utopie d'un bien-être de l'humanité, alors que l'utopie repose en réalité sur une extension du marché, c'est-à-dire qu'au fond, le transhumanisme sert d'abord un business particulièrement lucratif. Je voudrais vous entendre là-dessus.
Absolument. Je reviens, je pense que les dits transhumanistes ont beaucoup trop eu de une de magazines de par le monde, hein, et qu'on s'attache beaucoup trop à cela, et qu'on s'attache relativement encore, puisque c'est l'objet de l'émission avec les technologies numériques, le transhumanisme, les capteurs, l'intelligence artificielle. Nous ne regardons pas suffisamment un phénomène plus subtil, plus discret, mais qui est appelé à être déterminant dans nos existences. C'est-à-dire la volonté de l'industrie du numérique d'orienter les corps, de les faire agir de telle manière plutôt que telle manière, à des fins
économiques.
À des fins économiques ou à des fins d'optimisation. De secteurs de la société, d'extrême optimisation de secteurs de la société.
Parce que ce qu'il faut dire, Eric Sadin, c'est que l'intelligence artificielle, depuis le début des années 2010, c'est le secteur économique décisif dans lequel il faut investir de toute urgence. Et cela parce qu'au-delà du domaine de la santé, dont on a parlé, l'intelligence artificielle est absolument partout. Et les États y participent très largement.
Absolument, ça fait tourner la tête. C'est ce que je nomme l'ivresse de l'époque. Tous les États se sont engagés dans une course industrielle, donc en mobilisant des fonds publics. Et tout cela, je le remarque, s'opère dans la plus grande précipitation, à telle enseigne que le secrétariat d'État au numérique en France, Mounir Medjoubi, a dit comprendre dans Le Monde, c'est dans Le Monde, il y a deux semaines, comprendre que les industriels développent les procédés et qu'on réfléchira après. Je pense qu'au nom de ce nouveau Graal, de cette nouvelle frontière économique, dont Cédric Viviani, qui a produit un rapport l'année dernière, ne cesse de nous dire qu'il faut inviter les plus grands chercheurs du monde entier en France.
Oui, puis du côté de l'Arabie Saoudite, on a créé un ministère de l'intelligence artificielle.
Et que nous sommes en retard sous quel prisme ? Je pense qu'il y a une sorte d'ivresse de l'époque, et qu'au nom des sacro-saints points de croissance, on ne voit pas, on ne saisit pas, dans un aveuglement coupable, l'étendue des conséquences civilisationnelles.
David Le Breton, il y a un investissement des pouvoirs publics très importants. Les États sont obligés, en quelque sorte, de suivre ce mouvement qui est impulsé par les entrepreneurs, notamment beaucoup de la Silicon Valley.
Oui, bien sûr, je vois le transhumanisme, pour ma part, comme l'expression la plus puissante de l'ultralibéralisme dans tout ce qu'il a de brutal. Il s'agit bien d'une quête de performance, ou en tous les cas de fantasme de performance, et en aucun cas d'accroissement du goût de vivre, évidemment, qui est tout à fait secondaire en la matière. Il s'agit d'élargir à l'infini les marchés, il s'agit de promouvoir des recherches qui peuvent nous paraître un peu farfelues à Eric Sadin ou à moi, mais en même temps qui génèrent des sommes absolument hallucinantes. Et tout cela, évidemment, au profit d'un certain nombre de gens. Parce que même si un seul instant, on imagine qu'une fée, en quelque sorte, rendrait possible toutes ces technologies, enfin, leur réalisation sociale, il est clair que seule une poignée de privilégiés richissimes pourraient réellement en profiter. Hein, c'est-à-dire que, finalement, le transhumanisme contribue également à accroître à l'infini le fossé entre les démunis et ceux qui ont le pouvoir et qui ivres de leur pouvoir en veulent encore davantage.
Alors est-ce que l'homme va finir par être au service de la machine ? Est-ce qu'il l'est déjà ? On va en parler dans un instant. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds the key. My body is a cage. Standing on the stage, a fear. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et c'est My Body is a Cage d'Arcade Fire que l'on vient d'écouter. Nous parlons aujourd'hui du corps augmenté et des fantasmes du post-humanisme avec Éric Sadin qui est en studio avec nous et David Le Breton en duplex de Strasbourg. Alors qui de l'homme ou de la machine est celui qui donne l'ordre? Voilà une question essentielle et pour bien comprendre, écoutons un extrait de ce documentaire dans lequel un ouvrier travaille avec un casque sur les oreilles qui lui dicte ses tâches.
Un instant s'il vous plaît. Veuillez maintenir le silence pendant quelques instants. Veuillez prononcer. 0.
0.
1.
1.
2.
2.
Vous êtes l'utilisateur Laurent Martin. Dites OK pour vous connecter.
OK.
Client, Dunkerque. Total mission. 43 colis.
5, 3, 4.
20 cartons.
3 OK.
3 reste 17.
2 OK.
2 reste 6. Quantité. Total 20. Validé 20. Bouteille.
2, 1, 3.
2 cartons.
2 OK.
77.
1 OK.
152.
Je suis à peu près convaincu que la technologie libère l'homme. Jusqu'à un certain point. Là, je suis libre. Hein, je peux arrêter de faire une mission, sortir, aller prendre un café, revenir, recommencer à travailler. Il n'y a aucun problème. Je ne suis pas tenu par la machine. C'est l'inverse. C'est moi qui tiens la machine.
Voilà, c'est moi qui tiens la machine. Les nouvelles technologies font déjà de nous des travailleurs augmentés. Éric Sadin, l'objectif, c'est d'éliminer toute possibilité d'erreur, toute incertitude, avec une évaluation qui est de plus en plus systématique.
Augmenter, certainement pas. Mesurer, orienter. Avec ce qui est nommé la data-driven manufacture, qui sonne très joli comme ça, hein, ultra contemporain, hein. C'est-à-dire l'usine, les entreprises pilotées par la donnée. Hein. Moi, jusque-là, je pensais que les entreprises étaient des collectifs humains où des humains travaillaient ensemble et avec des différends, des conflits de temps en temps, mais voilà, au nom d'intérêts plus ou moins communs. Ce qu'il se passe avec la dite entreprise 4.0, dont on ne cesse de nous vanter, les industriels, mais aussi les responsables politiques, les infinies vertus, eh bien, c'est l'architecture dont nous avons parlé en préambule, c'est-à-dire les capteurs, les systèmes d'intelligence artificielle, qui mesurent en temps réel les départements de la conception, de la production, de la logistique, jusqu'à ce qui est nommé satisfaction client. Donc là, c'est par les capteurs sur les chaînes de montage, les chaînes de production, et qui voient des systèmes d'intelligence artificielle interpréter, donc nous revenons à ce que nous avions dit au début, interpréter en temps réel des situations, et en vue de critères définis par des cabinets extérieurs de management, sont capables de formuler, d'édicter des actions à entreprendre auprès du personnel. Donc là, vous voyez que nous parlons très souvent des destructions d'emplois supposées être occasionnées par les développements de l'intelligence artificielle, nous ne parlons pas, à mon sens, suffisamment des nouvelles conditions de management qui voient par l'aura de vérité que nous accordons à l'intelligence artificielle. Vous voyez là, ce n'est pas que des actitudes, ce sont des états de fait, c'est injonctif, c'est-à-dire en fonction d'états et en fonction de critères qui visent là pour le coup une stricte optimisation des modes de production qui édictent des gestes à des personnes qui sont réduits à des êtres, des robots de chair et de sang.
Voilà, et cela pose toute une série de questions. Laurent Alexandre, grand adepte en France du transhumanisme,
ah oui, parlons-en,
écrit à terme, un être humain qui refuserait d'être hybridé avec des circuits électroniques ne serait guère compétitif sur le marché du travail. David Le Breton, on a le sentiment que le projet du transhumanisme pourrait éventuellement créer une humanité à double vitesse. Je citerai aussi Kevin Warwick, professeur de cybernétique, dans son livre « Moi, le cyborg ». Il disait « Il y aura ceux qui décideront de rester humains et qui refuseront de s'améliorer. Ils auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront, je cite, les chimpanzés du futur. »
Oui, bon, évidemment, il faut aussi dire qu'on est toujours dans le domaine du fantasme, parce que pour l'instant, il n'y a quand même pas de mode de transformation majeure de la condition humaine. Nous demeurons, pour le meilleur ou pour le pire, des hommes, des femmes, ou autres, d'ailleurs, de chair. Mais c'est vrai que ces idéologies nous bombardent d'une certaine manière, et nous renvoient à l'idée que quelque part, ailleurs, il y aurait un autre monde, un monde d'ailleurs, une surhumanité, une post-humanité, une post-biologie. technologies, etc., auxquelles accéderaient un certain nombre de privilégiés, qui leur donneraient des pouvoirs considérables sur le monde, et puis sur les autres, et puis qui, en même temps, les affranchiraient de la maladie, de la mort, etc.
Parce qu'il y a aussi beaucoup d'avancées, David Le Breton. Alors, toute la question,
oui, c'est
vrai, jusqu'à quel point est-il souhaitable de modifier le corps, de le connecter à la machine? Comment est-ce qu'on trace cette limite? Il y a une question éthique qui se pose ici, David Le Breton.
Oui, il y a une question éthique, donc elle devrait faire l'objet d'une délibération commune et non pas du diktat de grandes entreprises comme Google, qui finalement deviennent plus puissantes que les États et nous orientent vers des comportements que nous n'avons pas forcément choisis. Voilà.
Par ailleurs, il y a aussi cette question du recrutement, Éric Sadin. Le recrutement passe de plus en plus par ce qu'on appelle des agents conversationnels, ces robots qui évaluent les attitudes corporelles des candidats. Alors en quoi est-ce que ça consiste et pourquoi ça ne permet pas, contrairement au discours qui est tenu, de mettre fin aux discriminations à l'embauche, selon vous ?
Alors voilà un bon exemple. Je reviens quelques instants sur les discours au futur qu'on ne cesse d'entendre. Je crois que il est temps de s'opposer à ces discours énoncés au futur. Ça va être comme ça, il va se passer comme ça, dont ce fameux Laurent Alexandre est un adepte. Je crois qu'il faut développer une analyse au présent de ce qui se joue et saisir les signes faibles et ce qui est annonciateur plutôt que de nous décrire que les choses vont être comme telles.
Et les agents conversationnels, c'est du présent, ils existent réellement.
C'est déjà du présent. Alors là, nous parlons du corps, nous y sommes en plein. Ce sont des nouveaux systèmes qui sont en train d'être introduits dans les cabinets de recrutement, qui voient des robots numériques, des chatbots, discuter, puisqu'on doit parler comme ça. Hein, car voyez-vous qu'au moment où la technique est appelée à nous dire la vérité, des dispositifs parlent. C'est très très troublant. Hein. C'est-à-dire au moment où des systèmes d'intelligence artificielle nous disent ce qui nous convient de faire, ils nous parlent. Regardez l'enceinte connectée, hein. Par exemple. Elle nous parle. Je suis dans mon bain, elle nous dit « Vous devriez prendre, au vu de ce que je connais de vous, Eric, mais ça ne sera pas moi parce que je n'aurai jamais d'enceinte connectée dans mon domicile, vous devriez prendre telle huile essentielle pour votre bain. » La technique parle. Donc il y a le pouvoir injonctif qui se manifeste par la parole. Et là, les chatbots discutent avec des candidats et au nom de plusieurs critères qui mériteraient de faire l'objet d'une publicité. La publicité, c'est un point cardinal de l'organisation démocratique. Sélectionne des candidats dont on nous dit actuellement, mais nous sommes en le 1er novembre 2018, n'est-ce pas? Donc, en novembre 2018, on nous dit que au bout du compte, toujours les mêmes formules à l'emporte-pièce qu'on ne cesse d'entendre, c'est l'humain qui au bout de la chaîne va prendre la décision. C'est faux. Car nous vivons, c'est une trajectoire qui est à l'œuvre. C'est une puissance d'expertise qui est appelée à sans cesse se sophistiquer, je l'ai dit tout à l'heure,
par le machine learning. Pour l'instant, c'est une partie du processus. On ne peut pas dire que c'est l'intégralité du processus.
Ça commence à l'être et plus. C'est ça qu'on ne voit pas assez, je pense. C'est la sophistication sans cesse qui est appelée à être sans cesse croissante de la puissance d'expertise. Et ça induit quoi, ça? Ça induit une dimension oratique qu'on accorde à la puissance de vérité de l'intelligence artificielle. Alors, vous savez, quand les résultats fonctionnent, qu'il y a de la fiabilité, qu'on me dit vous devriez aller dans telle pharmacie, vous devriez prendre tel candidat, qu'il y a des effets de réponse positive, en tous les cas que ça fonctionne, il va être de plus en plus difficile de manifester de la distance critique au profit d'un assentiment au pouvoir de vérité de la technique. C'est cela qu'on ne voit pas suffisamment.
Cette
dimension énonciative et injonctive en vue, je le répète, il ne faut jamais perdre de vue cela, en vue de répondre à des intérêts privés et d'instaurer une vision utilitariste, hautement rationalisé de la société et qui tend vers un hygiénisme, c'est-à-dire le refus de tout défaut dans l'organisation des affaires humaines.
Ce que vous dites, Éric Sadin, c'est qu'on consent en quelque sorte à mettre notre vie sous tutelle et c'est ce que montre l'exemple peut-être assez extrême de ce bandeau développé par une start-up française et qui est censé améliorer le sommeil. Donc même jusqu'à le lieu de notre intimité, la nouvelle technologie est là pour essayer de nous apporter ce qui est censé être nécessaire.
Absolument. Ce sont des serre-têtes doivent être posées sur les fronts. Alors, avant d'améliorer, ils mesurent le sommeil. Ils sont supposés, je le redis bien, supposés mesurer le sommeil au réveil. Et qui sont aussi dotés de fonctionnalités de nous réveiller, supposément. Il faut dire très souvent supposément, car au-delà des fonctionnalités énoncées, il faut aller voir de près comment les choses se passent, et nous sommes très loin de ce qui est des fonctionnalités annoncées, et qui au réveil, eh bien c'est toujours la même histoire. Interprètent les états, nous disent en fonction de votre nuit de sommeil, peut-être pas tous les jours, mais au bout de quelques jours, prenez tel complément alimentaire, allez dans tel hôtel qui vous conviendrait le mieux à la montagne. Donc c'est cette mesure du corps. Là, c'est capteur, nous avons affaire à des capteurs, des systèmes d'intelligence artificielle. Et là encore, je reviens, nous sommes dans la dimension incitative de l'injonction. Hein, alors, au réveil, si on a ce bandeau, on peut dire, bon, j'écoute ou je n'écoute pas. Mais si on prescrit tel produit de bien-être, que ça fonctionne, vous comprenez que cette distance, cet écart avec les systèmes est appelé à s'amoindrir. Donc c'est la question de l'autonomie de notre jugement, de notre faculté à nous déterminer en conscience et par notre appréhension multisensorielle.
On peut également citer d'autres applications. Je pense à celle qui calcule les apports caloriques des repas. Et ce qui est intéressant et sur lequel j'aimerais vous entendre, David Le Breton, c'est que on a le sentiment que la technique, c'est ce qui vient donc transformer ce rapport de l'homme à son propre corps, avec cette idée peut-être de faire disparaître l'intuition, qui est pourtant une notion fondamentale dans l'appréhension de nos propres corps.
Oui, c'est vrai, faire disparaître la créativité dans le travail, par exemple, pour prolonger le débat de tout à l'heure, effacer l'intuition qui renvoie en permanence à notre rapport au monde, parce que évidemment, on élimine dans tout cela les perceptions sensorielles qui sont les nôtres et qui sont liées aussi à notre histoire personnelle, aux choses qu'on aime, aux choses. Transformer la cuisine en un certain nombre d'apports caloriques, évidemment, c'est un appauvrissement, c'est une mutilation absolument terrible, plutôt que de se laisser guider par ses désirs. On trouve d'ailleurs là, ce qui pour moi est l'un des au cœur du transhumanisme, de nouvelles formes de puritanisme, et même je dirais d'hyper-puritanisme. C'est vraiment cette volonté que rien ne dépasse du corps, hein. Aucun désir, aucune émotion, aucun trouble, contrôler au plus profond de l'individu, formater même, c'est une forme de formatage du corps, et peut-être un jour de ce qu'il restera du corps à travers sa cyborgisation, par exemple, à travers un certain nombre de prothèses. On est donc dans un univers hyper puritain, un univers sans désir, un univers sans autre aussi, d'une certaine manière, puisque quand vous évoquez l'intuition, vous évoquez aussi les discussions innombrables que nous pouvons avoir avec nos proches sur les choses qui nous font plaisir, les choses qui nous font du bien, etc. Là où on s'en remet à la machine, dans une sorte de servitude volontaire, et puis on élimine donc le sens, hein, j'en reviens à cette idée-là, le sens qui s'oppose à l'information. Le sens avec son ambivalence, avec son émotion, avec sa complexité.
Ce que vous dites, pardon, vous interrompre, David Le Breton, c'est qu'il faut absolument réaffirmer la part du corps dans la mise en œuvre de l'intelligence. Et c'est ce que Merleau-Ponty disait quand il écrivait « Le corps est l'instrument général de sa compréhension du monde ».
Oui, réintroduire le corps, d'ailleurs, c'est réintroduire le sujet. Il ne faut pas non plus verser dans un dualisme. Mais nous sommes des êtres de chair en tant qu'humains. Nous sommes notre corps. Nous n'avons pas un corps. Nous ne possédons pas un corps comme un objet. Nous sommes notre corps. Et donc, notre pensée du monde et notre action sur le monde passe fondamentalement par le corps. Et effectivement, il y a aussi une intelligence du corps en permanence, comme il y a, bien sûr, une matérialité de la pensée. Mais nous ne sommes pas, donc, nous sommes en permanence dans cette invention, dans cette réinvention permanente de nos vies que les technologies, évidemment, dont les technologies nous priveraient d'une certaine manière.
Le post-humanisme, c'est en tout cas l'un des sujets de prédilection de la science-fiction, comme on peut l'entendre dans cet extrait du film Transcendance de Walid Pfister. Johnny Depp y incarne un scientifique génial qui décide, alors qu'il lui reste un mois à vivre, de télécharger sa conscience dans un ordinateur.
Une fois en ligne, une machine douée de raison dépassera très vite les limites de la biologie. Et très rapidement, sa capacité d'analyse sera supérieure à l'intelligence collective de tous les individus passés ou présents de la longue histoire de ce monde. Imaginez donc une entité de ce genre éprouvant toute la gamme des émotions humaines jusqu'à la conscience de soi. Certains chercheurs appellent cela la singularité. J'appelle ça la transcendance. Mais la mise au point de cette supra-intelligence nous oblige à élucider les plus grands secrets de l'univers. Quelle est la nature de la conscience? Et si c'est le cas, où réside-t-elle?
Où réside-t-elle à cette conscience? Alors la science-fiction, Éric Sadin, on peut dire qu'elle a contribué largement à cette mythification, à ce fantasme du post-humain?
Ah oui, certainement. Il y a de la science-fiction critique, il y a de la science-fiction non critique. qu'il peut signaler des récits comme étant annoncés et souhaitables. Là, nous avons affaire à des représentations qui sont forgées. Je pense au terme d'intelligence artificielle que nous ne réinterrogeons pas suffisamment, qui suppose, car nous vivons le moment anthropomorphique de la technique, hein, où les systèmes sont supposés être modélisés sur le cerveau humain, dont on suppose qu'ils représentent une instance parfaite d'organisation de l'information et d'appréhension du réel.
Mais une vision qui date des origines de l'ordinateur, c'était déjà Alan Turing.
De la cybernétique, à partir des années 50-60, dont là, une fois de plus, il faut aller voir de près, les personnes qui ont été prises par ce fantasme de dupliquer le cerveau humain n'avaient aucune connaissance en neurosciences, ce qui est encore à l'œuvre aujourd'hui avec les ingénieurs qui développent ce modèle anthropomorphe. Et comment il faut entendre la généralisation de ce terme, que j'utilise par commodité, mais qu'il faudrait remettre en question? Comment il faut l'entendre? Il faut l'entendre comme des modes d'organisation, un mode de rationalité qui va s'inspirer d'une dynamique continuelle, de structures en réseau où tout est en relation avec tout, et d'optimisation extrême de fonctionnement des processeurs, des systèmes, et donc de nos modes de vie. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas d'intelligence artificielle. Qui laisserait supposer, il faut bien l'entendre ça, quels seraient que ces systèmes dits d'intelligence artificielle, serait comme est important, comme naturellement appelé à se substituer à nos intelligences. Il faut les mettre au pluriel, l'intelligence, à nos intelligences, en vue d'assurer le meilleur cours de nos affaires humaines. Je crois qu'il s'agit bien davantage d'un mode de rationalité fondé sur la volonté d'engager continuellement des transactions marchandes, d'organiser une organisation hyper optimisée, extrêmement rationalisée de la société. Et je crois que face à ce mode de rationalité dont nous entendre qu'il représente l'avenir inéluctable et lumineux de notre humanité, il faut faire valoir des modes de rationalité, fondés sur de tout autre principe et de toutes autres aspirations. C'est ce à quoi j'aspire pour ma part.
Le biologiste Jacques Testard estimait dans un article de Libération qu'on manque aujourd'hui d'un récit alternatif pour un futur différent de celui proposé par le transhumanisme, qui est donc popularisé notamment par une partie de la science-fiction. David Le Breton, ce sera le dernier mot de cette émission, mais quel pourrait être ce nouveau récit?
Voilà, la question est absolument immense, mais c'est vrai que nous n'avons plus de récits pour nous projeter aujourd'hui dans l'avenir. Il y a une énorme inquiétude de nos contemporains par rapport, ne serait-ce que l'écologie, mais aussi l'économie, le lien social, qui est quand même bien abîmé ces dernières années. Donc là, finalement, le transhumanisme nous offre un récit enchanté, alternatif, d'un monde merveilleux qui nous attend. Il prend le relais d'ailleurs des discours religieux, mais on voit mal l'enracinement aujourd'hui d'un discours alternatif qui viserait à restaurer le goût de vivre, le plaisir d'être ensemble, la convivialité. D'ailleurs, non pas que ces discours-là n'existent pas, évidemment, ils sont présents, et ce sont des formes de résistance citoyenne qui sont parfois très solides, mais en même temps qui n'arrivent pas à unifier avec une telle puissance que le lien social que le fait le transhumanisme.
Éric Sadin, très rapidement sur ce nouveau récit.
Je pense que plus que jamais, nous devrions développer des contre-imaginaires, d'autres imaginaires, et d'autres imaginaires techniques, car le drame, c'est que la technique, aujourd'hui, dans son développement, prend un cours homogène. Il y a d'autres productions techniques possibles, et je vois que les écoles d'ingénieurs, l'inféodation des techniciens, des ingénieurs au monde économique, réduit le champ d'inventivité de la technique. Et ça, c'est un drame, parce que ce sont des formes de pluralité qui sont neutralisées au profit d'un cours homogène qui répond à celui dont nous avons parlé au cours de l'émission.
C'est en tout cas un sujet qu'on va suivre de très près dans Entendez-vous l'écho. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui des ravages de la pollution sur les corps.
Oui, des ravages pointés par l'Organisation Mondiale de la Santé dans un rapport rendu il y a deux jours et qui nous rappelle l'impact dévastateur de la pollution de l'air sur la santé des enfants. Bien sûr, cette information n'est pas nouvelle, mais il convient de la rappeler inlassablement pour qu'effrayé par sa propre fin, l'homme soit enfin poussé au changement. C'est donc un acte politique de la part de l'OMS qui a choisi de sonner l'alarme en réunissant dans un seul document l'ensemble des connaissances scientifiques dont nous disposons à ce jour sur les impacts de la pollution atmosphérique. Et le constat est sans appel, 600 000 enfants de moins de 15 ans meurent chaque année dans le monde du fait de leur exposition à un environnement saturé en particules fines.
Des pollutions qui peuvent d'ailleurs avoir des causes multiples.
Oui, des gaz toxiques rejetés par le trafic automobile à ceux liés aux activités industrielles, en passant par l'incinération de déchets, l'homme laisse sur son passage une trace indélébile des gaz omniprésents comme en suspens qui colonisent et détruisent nos corps. Et ce sont bien sûr les plus faibles qui sont les premiers touchés, comme le rappelle explicitement l'OMS, je cite, la pauvreté est clairement lié à une exposition accrue aux risques environnementaux et sanitaires. Ce sont ainsi 3 millions de personnes à travers le monde qui utilisent tous les jours des combustibles comme le charbon ou le kérosène pour cuisiner, se chauffer ou s'éclairer, avec en première ligne les femmes et les enfants.
En réalité, les risques liés aux pollutions sont d'ailleurs avérés dès la grossesse.
Oui, l'exposition aux oxydes d'azote contenus dans les échappements de nos voitures diesel peut ainsi avoir une incidence très grave en multipliant les risques de naissance prématurée, d'enfants mort-nés, de malformations et de maladies pulmonaires. C'est également ce qu'affirme l'agence européenne pour l'environnement dans un rapport sorti le 29 octobre dernier, où elle révèle que les pollutions aux particules fines sont responsables chaque année de plus de 420 000 décès prématurés en Europe. Elle rappelle également qu'en France, 12 agglomérations dont Paris, Marseille ou Lyon continuent de dépasser les limites européennes en matière de concentration de dioxyde d'azote et d'ozone. Des dépassements qui valent régulièrement à la France d'être renvoyée devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui pointe la nécessité d'agir pour réduire ces émissions empoisonnées.
Des militants se mobilisent d'ailleurs régulièrement pour rappeler cette urgence d'agir.
Oui, absolument. On en a encore eu la preuve la semaine dernière avec le rassemblement de plus de 6000 militants écologistes sur le site de Hambach en Allemagne, qui abrite l'une des plus grandes mines de charbon à ciel ouvert d'Europe. Des milliers de personnes sont donc venues de toute l'Europe et ont décidé de mettre leur corps en jeu pour en participant à une immense action de désobéissance civile visant à empêcher le fonctionnement normal de la mine. Le but est surtout de rappeler l'urgence de l'action et de pointer le manque de courage politique de nos dirigeants sur cette question essentielle de la pollution des corps. Rassemblés sous la bannière du collectif Ende Gelände, littéralement jusqu'ici et pas plus loin, ces activistes ont décidé de se mobiliser pour rappeler la nécessité de limites dans l'exploitation de la planète et dans nos modes de production outranciers pour protéger justement nos corps malades de notre démesure. Sur le terrain, les activistes s'organisent donc minutieusement, répartis en 5 ensembles, représentant les 5 doigts de la main. Chaque doigt, chaque phalange se déplace avec un but précis. Certains passeront ainsi la nuit à occuper la mine ou à bloquer les rails de train approvisionnant la mine de charbon. Il faut aussi contourner ou se défendre face aux policiers qui encadrent la mine. Le mois dernier, un homme est mort lors d'une évacuation de la police allemande. Mais les hommes reviennent, continuent de mettre leur corps en danger pour déplacer l'attention, porter le débat sur ces laboratoires de poison à ciel ouvert, des corps mis en danger pour que d'autres vivent.
Sit your head on a silver jet stream while the smoke is rising over your thoughts and your dreams. Watch over, you watch them fall down. Your nuts and bolts are all over the ground. You get out, you get out, you get out, you get out.
On se quitte sur une déclaration d'amour adressée au robot Love Song for Robots du Canadien Patrick Watson. Un grand merci David Le Breton et Eric Sadin de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci aux techniciens de Strasbourg qui ont permis ce duplex. Demain, la méthode scientifique sera en direct des Utopiales à Nantes pour une émission sur le corps cybernétique. Quand la science-fiction s'incarne, c'est le titre. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour questionner l'économie selon Trump à la veille des élections de mi-mandat. En attendant, n'hésitez pas à réécouter notre série consacrée à la valeur du corps en podcast sur franceculture.fr et à nous rendre visite sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Belle fin de journée et à demain.